Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les moutons se sont pendus, épisode 5.
Le docteur Lavaronnière ne tient plus en place. Une photo de Solange, mon voisin. C'est désormais tout ce qu'il lui faut pour enfin lever cette malédiction et en finir avec ce cauchemar insensé. Mais où trouver une photo de la sorcière? Qui plus est, un cliché qui date de moins de 7 ans, comme l'a demandé le père Ribaud. C'est en lisant le Berry républicain que Lavaronnière a subitement une idée. Il reconnaît en effet dans les pages du journal local un voisin photographié devant l'un de ses porcs. Le plus gros cochon du département, dit la légende. Or, les mots voisins ont eux aussi été photographiés un an plus tôt, lors d'un concours agricole. Une de leurs bêtes avait été primée. Le docteur écrit sans attendre à la rédaction du Berry républicain et une dizaine de jours plus tard, il reçoit le numéro du journal contenant la photographie. Le cliché est un peu grossier, mais on reconnaît parfaitement Solange, mon voisin. Le docteur découpe la photo et part sans plus attendre chez le père Ribaud. Une fois arrivé, le vieux Ribaud lui sert encore un de ces théâtres dont il a le secret. D'abord, il lui annonce qu'il refuse de faire quoi que ce soit, c'est le jour du pain. Le père Ribaud fait lui-même son pain, et pas de chance pour Lavaronnière, ça tombe précisément là, tout de suite. Il va devoir attendre, une fois de plus. Le pain à peine terminé, une roulotte de manouches s'arrête devant la maison du vieux. Il leur a promis quelques jours plus tôt de les soigner et de leur offrir à déjeuner. Après quoi, il doit retourner s'occuper du pain, c'est l'heure de la deuxième fournée. Le docteur commence à perdre patience. À 16h, alors que tout semble enfin fini, Ribaud file s'enfermer dans son bureau, tandis que les manouches s'installent devant la télévision. Lavaronnière est au bord des larmes. Il s'écroule sur le banc de pierre devant la maison du vieux Ribaud. Serait-on en train de se moquer de lui? Finalement, un peu avant 20h, Ribaud se dit enfin disposé à l'entendre. N'y tenant plus, le docteur lui tend la photo de Solange. Le père Ribaud lui demande alors de lui raconter toute son histoire depuis le début. Au cœur de la nuit, quand Lavaronnière arrive enfin au terme de son récit, le père Ribaud lui annonce qu'il a été victime de la magie de l'œuf.
Propos d'Augustin Ribaud, extrait du journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 4 juillet 1972.
Ils t'ont pas raté, ils t'ont arrangé à la mode du pays. Hein. Cette magie de l'œuf, c'est dans le Berry et le Charentais qu'elle est la plus répandue. Ce qui m'étonne, c'est qu'on t'en ait pas parlé avant moi. Je vais te raconter comment ça se passe. L'amour voisin a commencé par ramasser des poils et des crottes de tes moutons, qu'elle a réduits en poussière. Quand elle a eu confectionné cette poudre, elle a pris 3 œufs fécondés aux coquilles intactes, non fêlés, en s'assurant qu'ils n'avaient jamais touché l'eau. Puis, elle a fait des ouvertures du côté de la pointe la plus large avec un petit canif ou une aiguille. Elle a fourré une pincée de sa poussière de poils, elle l'a refermée. Il ne restait plus qu'à prononcer une malédiction avec des mots, je ne peux pas te dire, le maléfice était prêt. Après, elle a réchauffé les œufs, les uns après les autres, dans sa main gauche pour qu'ils prennent la température de son corps. Puis elle les a enterrés aux 3 pointes d'un triangle qu'elle a dessiné autour de ta maison ou de tes champs. Un triangle dont la base est au nord, la pointe au sud. La figure de Satan, qu'on l'appelle, parce qu'elle barre le grand courant magnétique qui va de nord au sud. Quand on veut combattre le sort, il faut faire la même opération, mais en sens inverse, en dirigeant la pointe de ton triangle vers le nord. Le maléfice dure de 6 à 18 mois, le temps que la Terre digère les œufs. Dans ton cas, il a fallu recommencer plusieurs fois l'opération. C'est long et risqué de s'adonner à cette magie. À force de rôder comme ça dans les champs, à faire des incantations, les bras écartés, on finit toujours par se faire remarquer.
Le docteur Lavaronnière est abasourdi par l'explication du père Ribaud. Il en rirait presque s'il n'avait pas autant souffert toutes ces années. Des œufs, alors que lui avait la science de son côté. Mais quelque chose cloche dans le raisonnement du père Ribaud. Jeanne Anguerny est venue défaire cette magie de l'œuf. Le docteur l'a vu, comme l'explique le vieux, inverser les triangles et faire des incantations, les bras écartés. Et pourtant, les problèmes ont continué. Pendant plus de 10 ans, jusqu'aujourd'hui, en racontant ça au père Ribaud, le vieux devient blême. Un peu gêné, il lui annonce qu'il va falloir trouver autre chose. Que trop de gens ont tripoté à son affaire, qu'il ne sera d'aucune utilité. Le docteur sent sa gorge le serrer. Il comprend que le père Ribaud ne fera rien, qu'il a une fois de plus perdu son temps. Henri Lavaronnière rentre chez lui et s'enferme dans sa chambre. Il va y rester cloîtré pendant 13 jours.
Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 17 juillet 1972.
13 jours de réclusion, sans parler, sans voir personne. C'est à peine si j'acceptais de toucher, certains soirs, au plat que Clémence déposait devant ma porte. Quel calme, quelle sérénité. Cet avant-goût de la mort était tentateur.
La situation finira toutefois par revenir à la normale. Mais un mois plus tard, le docteur est victime d'une très violente crise. La plus violente, sans doute, qu'il ait eu à endurer jusqu'ici.
Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 15 août 1972.
Le coup de maillet m'a pris alors que j'étais encore au lit. Une impression d'étouffement, mes poumons bloqués. J'ai bien cru mourir, non pas de cette mort que j'espérais ces derniers temps, douce et apaisante, mais une mort atroce, grimaçante, qui me serrait, me broyait la tête et les os, sans que je puisse même arracher un cri à ma gorge noué par l'angoisse. J'étais seul dans mon lit. J'ai voulu me lever malgré tout, mais je ne tenais pas debout. Tout à coup, j'ai vu mes mains couvertes de plaques rouges. Ça suppurait, suintait comme autant de brûlures qu'on m'aurait infligées pendant la nuit. Quand Clémence est entrée dans la chambre, elle a poussé un hurlement. C'est seulement après que j'ai compris, en apercevant dans une glace un visage ignoble, couvert d'œdèmes, un visage de cauchemar. Mon visage.
Cette fois, la séquestration volontaire du docteur durera un mois. Un mois sans sortir, sans écrire. Nous sommes fin septembre, il ne lui reste plus que 50 jours à vivre. À une occasion, une seule, il accepte de quitter sa chambre le jour où il reçoit la visite de Melun, son assureur. Une vieille connaissance, un notable de Châteauroux, élevé dans le culte de la religion et de l'argent, qui incarne l'opposé total du monde paysan et dont Lavaronnière apprécie les rares visites. Melun est de passage, car il a rendez-vous avec l'abbé de Verneuil, personnage trouble et charismatique qui a la réputation d'étudier la magie noire. Malgré son état, le docteur ne peut se réfréner et l'embarque très vite sur ce terrain. Melun, au terme d'une conversation émue, lui avoue que l'abbé de Verneuil l'a tiré d'une étrange malchance qui l'a frappé, lui et sa famille, il y a plus d'une décennie, et a failli, quelques années plus tôt, le conduire au suicide. Lavaronnière, même s'il est fatigué de tous ses sauveteurs providentiels, se reconnaît dans l'histoire de son assureur et lui demande sans plus attendre l'adresse de l'abbé. Il lui écrit une lettre qu'il poste le 21 septembre. 3 jours plus tard, il reçoit une réponse, une convocation formaliste et impersonnelle pour le 28 septembre à 16h.
Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 29 septembre 1972.
J'attends un quart d'heure dans une petite pièce confortable. Un fusil accroché au mur, des cuivres astiqués posés sur une arche berrichonne, des pots de grès, un vaste buffet ancien. Une impression de bien-être. Une jeune femme entre, me prie de la suivre. Elle me conduit devant une petite porte de chêne clair. Elle ouvre. Derrière un bureau encombré de livres et de lettres, j'aperçois un prêtre aux cheveux blancs et aux fines lunettes à monture d'or. Il se lève, immense, tonitruant, un homme fait d'une pièce. Tel vient de m'apparaître l'abbé de Verneuil. J'ai rarement eu le sentiment de percevoir une telle force intérieure chez un homme, une telle pesanteur.
Impressionné, le docteur raconte son histoire jusque dans le moindre détail. Les années à Lisieux, sa rencontre avec Jeanne Anguerny, Bois du Croc, les moutons pendus, les mots voisins, la préemption, la paralysie, les charlatans, les œdèmes, et la date fatidique qui approche. À la grande surprise de Lavaronnière, l'abbé de Verneuil lui offre une réponse très différente de celle de ses prédécesseurs. Sans mettre en doute les propos du docteur, il lui dit d'emblée qu'il va avoir besoin de plus d'éléments, de preuves tangibles, irréfutables. Il ne garantit rien, ni résultat miracle, ni rémission absolue, et tient sur l'Église un discours particulièrement critique et virulent. Avant de le congédier, l'abbé de Verneuil remet à Lavaronnière 2 médailles de Saint-Benoît. Une pour lui et une pour son épouse. La médaille de Saint-Benoît représente côté face l'effigie de Saint-Benoît et côté pile la croix de Saint-Benoît accompagnée d'une invocation en latin, généralement « Que le dragon ne soit pas mon chef »,« Retire-toi Satan » ou « Bois toi-même tes poisons ». Elle est censée protéger des influences maléfiques. L'entretien déçoit énormément le docteur Lavaronnière qui a non seulement l'impression de ne pas avoir été écouté, mais surtout qu'on l'a un peu pris pour un imbécile. Pourtant, il va garder la médaille de Saint-Benoît sur lui, incapable de s'en séparer. Et quelques jours plus tard, l'abbé de Verneuil lui propose un nouveau rendez-vous, cette fois avec un confrère, l'abbé Vandelaigne, spécialisé en démonologie. Le 6 octobre, le docteur Lavaronnière rend visite aux 2 abbés et raconte une nouvelle fois son histoire à Vandelaigne, un homme de petite taille aux yeux furteurs qui l'écoute avec une très grande attention. Une fois son récit terminé, Vandelaigne conclut à une infestation caractérisée. Voyant le docteur perplexe, de Verneuil lui explique que l'Église distingue 3 types de cas. L'infestation, l'obsession et la possession. La possession est le cas le plus sérieux des 3. C'est en clair celui qui sera montré l'année suivante dans L'Exorciste, le film de William Friedkin. un sujet transformé psychologiquement et physiquement, subitement doté d'une force exceptionnelle qui blasphème et parle des langues étrangères sans jamais les avoir apprises auparavant. L'obsession désigne une victime tourmentée en rêve ou au travers d'hallucinations par un persécuteur identifié. Dans l'infestation, le cas de la Varonnière, il s'agit d'un empoisonnement par charge maléfique envoyé par un persécuteur voué au diable. De Verneuil annonce au docteur qu'il va devoir se déplacer à la Grugne afin d'étudier son cas de plus près. Mais qu'avant cela, il souhaite l'exorciser à l'église. Le rendez-vous est pris pour le 25 octobre, 15 jours avant la mort programmée du docteur Lavaronnière.
Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 25 octobre 1972.
La voix de l'abbé de Verneuil tonne dans l'église. Je suis à genoux, dans le chœur, face au maître-autel. Les litanies des saints roulent leurs versets comme des vagues. Dehors, des oiseaux pépient. Les portes de l'église sont grandes ouvertes. Tout le monde peut assister à cet exorcisme. Mais je suis seul, face au prêtre, face à Dieu.
L'exorcisme terminé, en rentrant à la Grugne, le docteur Lavaronnière ne sait plus quoi penser. Il est pris d'une confiance nouvelle et dans les jours qui vont suivre, les crises vont diminuer. Mais les maux voisins continuent à passer chaque jour en voiture devant la maison et le docteur sent l'atmosphère malfaisante de la ferme peser sur lui à nouveau. Le 2 novembre, l'abbé de Verneuil arrive à la Grugne.
Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 2 novembre 1972.
Engoncé dans un grand pardessus noir et coiffé d'une toque de la même couleur, le visage rouge de froid, il portait une petite sacoche de cuir à la main. Il a traversé le jardin à grandes enjambées. J'étais ému, un peu puérilement. L'église venait chez moi, à mon secours, de la manière la plus officielle qui soit. J'en avais fini avec ces braconniers de la foi et de la superstition. L'abbé de Verneuil venait opérer chez moi, investi par cette toute-puissance mystérieuse de la religion, portant dans sa sacoche les instruments de son sacerdoce, l'étole, l'eau bénite, le rituel.
Pourtant, si l'abbé de Verneuil se livre bien à une visite minutieuse des lieux et qu'il use dans chaque pièce, chaque recoin, du sel et de l'eau bénite, il se laisse bientôt aller à de très étranges remarques qui déstabilisent complètement le docteur Lavaronnière. Après l'avoir interrogé sur Solange, mon voisin, il s'entretient longuement avec lui sur Jeanne Anguerny, appuyant particulièrement sur un détail, la fascination qu'éprouve le docteur pour la guérisseuse de Lisieux. Une fois son travail terminé, l'abbé confie aux Lavaronnières un sac de sel béni en leur demandant d'en semer tous les 9 jours sur le passage de Solange, mon voisin. Puis il quitte le docteur avec cet ultime conseil.
La vérité est en vous, docteur. Moi, je vous ai apporté le secours de la religion. Mais la solution, ce que j'appelle la vérité, elle viendra de vous. Vous savez, l'homme avoue 33% de vérité à son curé, 33% à son notaire, 33% à son médecin. Et il meurt avec 1% de vérité qu'il a toujours gardée secrète. Mais ce 1%, eh ben, il est plus lourd que sa pierre tombale.
Les jours qui suivront ne seront qu'attente et angoisse pour Henri Lavaronnière. Le docteur passe ses journées à épier aux fenêtres, à aller poser des barrières de sel béni sur la route qui les sépare de la maison des mon voisin. Il enchaîne insomnie, cauchemars et crises de panique durant lesquelles il lui prend l'envie subite de fuir la Grugne sans se retourner. Les jours passent et puis soudain, le 11 novembre.
Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 11 novembre 1972.
Je n'arrive pas à regarder le calendrier. Je ne devrais pas vivre ce jour. Je n'imaginais pas pouvoir le vivre et aujourd'hui je ne sais pas quoi faire. Curieuse victoire qui me laisse angoissé et désemparé. Ce n'est plus la peur, c'est une impression nouvelle. Le vide, l'absence. Je m'étais habitué à mourir, si bien que j'en avais perdu le goût de vivre. Et aujourd'hui, il faudrait faire un effort pour continuer. Je ne suis plus préparé à la vie. Toutes ces années de douleur et d'effroi m'ont brisé.
Henri Lavaronnière est vivant. Il n'y a désormais plus aucun moyen pour les maux voisins de récupérer la Grugne, et le docteur est hors de danger. Pourtant, il ne vit pas cette journée comme une victoire, et encore moins comme une délivrance. C'est presque comme s'il était déçu que sa condamnation soit levée. Comme si tout ce temps, il avait fait fausse route et que le mal finalement se trouvait ailleurs, tapis dans l'ombre, toujours prêt à frapper. Comme si la vérité n'avait pas encore été mise à jour. Cette réaction n'a pas surpris l'abbé de Verneuil. En quittant le docteur Lavaronnière, quelques jours plus tôt, il lui avait de manière un peu détournée donné la clé de son problème. La vérité est en vous, docteur.
Témoignage de l'abbé de Verneuil, recueilli par Philippe Alfonsi et Patrick Penaud le 17 novembre 1972.
Il m'est d'abord apparu évident que le docteur Lavaronnière avait été fasciné par cette femme, Jeanne Anguerny, qui est si souvent intervenue dans sa vie et a troublé ses convictions scientifiques. En effet, là se trouve une des clés du personnage. Lavaronnière a voulu surprendre les secrets de cette guérisseuse et ajouter à son art médical ses connaissances mystérieuses. Mais il a joué à l'apprenti sorcier. Il a déclenché des forces qu'il n'a pas su contrôler et qui se sont retournées contre lui. Lavaronnière, j'en suis à peu près persuadé, a été ensorcelé. Et à quel moment, je ne le sais pas. Mais il l'a été. L'était-il lorsqu'il est venu me voir? Je ne saurais le dire. Peut-être qu'à cette époque, Lavaronnière s'auto-envoûtait, c'est-à-dire qu'il se donnait lui-même les moyens de s'envoûter. Je voulais permettre au docteur Lavaronnière de découvrir en lui-même ce quelque chose qu'il voulait taire pour toujours, et qui était peut-être même en dehors du champ de sa conscience. Je pensais qu'il se mentait. Tout au long des conversations que j'ai eues avec le docteur Lavaronnière, j'ai eu le sentiment trouble que ce dernier cachait au plus profond de lui-même un secret inavouable, et que ce secret pesait encore bien lourd.
Le secret du docteur Lavaronnière, personne ne le connaîtra jamais. Ni l'abbé de Verneuil, ni Jeanne Anguerny, ni le père Ribaud, ni son épouse Clémence. Henri Lavaronnière a disparu avec lui. La dernière entrée de son journal date du 12 novembre 1972. Une date à laquelle il était définitivement hors d'atteinte, à laquelle il avait techniquement réalisé l'impossible, vaincre la mort. Voilà pourtant ce qu'il écrit sur cette dernière page.
Nuit horrible, hantée par une seule idée. Et s'il se vengeait quand même, pour le plaisir? Pas question de les laisser prendre une revanche. Dès aujourd'hui, j'irai chez le notaire. Il faut vendre la grogne, tout de suite, et partir. Malgré tous les exorcismes, les murs humides de cette maison garderont toujours la trace des maléfices qui les ont empoisonnés. Et moi, j'y laisserai mes terreurs, fixées à jamais, indélébiles. Nous allons quitter ce pays. Puisque je suis obligé de vivre, mon existence sera désormais celle d'un vagabond. D'abord, fuir cette terre qui ne m'a jamais accepté, acheter une caravane, rouler de jour en jour, loin de leur vengeance, loin de mes souvenirs. La vérité est en moi, m'a dit l'abbé de Verneuil. Mais voilà, cette vérité aussi me fait peur. Les moutons se sont pendus, c'est une histoire signée Lelo Jimmy Battista pour Programme B, avec les voix de Camille Regache, Juliette Livartowski, David Carzon, Joël Ronez et votre serviteur. Vincent Hiver en a assuré la réalisation. La musique est de Bernard Estardi, Usé, Quetzal Snakes, Mansfieldia et Roseboy666, avec l'aimable autorisation de Band Bad Records, Vicious Circle et 18 Records. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse? Qui n'a pas pu les sauver? Pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.